autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour, bienvenue. Deux héros nationaux, un Français et un Allemand, un chimiste et un médecin, deux caractères bien trempés. L'un est connu pour avoir trouvé le vaccin contre la rage, l'autre pour avoir découvert le bacille de la tuberculose. Louis Pasteur et Robert Koch ont inventé la microbiologie et fait progresser la lutte contre les maladies infectieuses. Pourtant, qui connaît aujourd'hui le nom de Koch en France? Et quelle place l'Allemagne donne-t-elle aux travaux de Pasteur? Après la guerre de 1870, les deux savants rivaux se sont affrontés dans un contexte de nationalisme exacerbé. Mais loin d'être stérile, cette course à la réussite a fait considérablement progresser la science. Autour de la question Pasteur et Koch, qui a inventé la microbiologie? La réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Annick Perrot.
Bonjour.
Vous êtes conservateur honoraire au Musée Pasteur. Bonjour Maxime Schwartz.
Bonjour.
Vous êtes ancien directeur de l'Institut Pasteur et vous êtes spécialiste de biologie moléculaire et des bactéries. Et vous signez tous les deux chez Odile Jacob, Pasteur et Koch, un duel de géants dans un monde de microbes. Alors Pasteur et vous, c'est une vieille histoire puisque vous avez déjà publié tous les deux Pasteur et ses lieutenants, un ouvrage sur la bande des pasteuriens, Yersin, Calmette, Héroux et d'autres encore, hein, les disciples de Pasteur. Pourquoi avez-vous envie de raconter en parallèle l'histoire de ces deux savants, l'un français et l'autre allemand, Maxime Schwartz?
Bien, je crois que c'est parti d'abord de la constatation que vous venez de rappeler, que les Français ignorent complètement le nom de Koch. On dit Koch ou Koch, on passe plus
on
souvent
dit le bacille de Koch,
mais à l'allemande ça fait Koch. Koch est totalement ignoré, alors qu'en fait, comme on va peut-être le voir dans cette émission, sa contribution à la naissance de la microbiologie est comparable à celle de Pasteur. Donc on a un petit peu voulu rétablir l'équilibre et puis mettre en avant cette lutte tout à fait extraordinaire entre deux génies de la science, l'un français et l'autre allemand.
Alors si on compare comme ça pour s'amuser rapidement les deux personnages, Pasteur est un peu plus vieux, il est né en 1822, Koch en 1843, donc l'un est chimiste, l'autre médecin de campagne, et a priori beaucoup de choses les séparent, enfin, sauf leur caractère quand même assez ombrageux, voire autoritaire, en tout cas tous les deux sont assez conscients de leurs valeurs, donc famille nombreuse chez les Pasteurs, une fille unique chez les Koch, remariage tardif et scandaleux sur la fin de sa carrière. Quel est au fond le point qui les distingue? La distinction fondamentale, c'est que l'un est chimiste et l'autre médecin, Annick Perrot?
Ce qui les différencie, oui, enfin, comme vous le dites, Pasteur est un chimiste. Il a 20 ans de plus que Robert Koch et très rapidement, toutes ses découvertes vont être connues et reconnues. Donc il est, d'ailleurs, quand il se rencontre avec Robert Koch,
ce ne sera pas très cordial.
Ça ne sera pas très cordial, mais surtout parce que Pasteur est une icône. Il est déjà... Il a quand même eu toutes ces découvertes sur la dissymétrie moléculaire, sur la démonstration des micro-organismes dans les fermentations, dans la putréfaction, la génération spontanée qu'il a contribué à... Enfin, il a démontré
que c'était faux,
que la génération spontanée n'existait pas. Il a aussi beaucoup étudié les maladies des vers à soie. Donc autant de travaux qui ont contribué à en faire une sommité scientifique, alors que Robert Koch est un médecin de campagne et il a beaucoup de mal justement à d'abord avoir un peu d'argent pour mener des travaux, parce que c'est un chercheur aussi né, fondamental, hein, il aime la recherche. Et il aura beaucoup de mal, lui, justement, à les mener.
Alors, Pasteur, en France, c'est une légende. Et pour bâtir cette légende, il y a bien sûr un jour historique. C'est la découverte du vaccin contre la rage. On est en 1885. Et ce jour, c'est celui de la vaccination du jeune Joseph Meister, un jeune Alsacien de 9 ans. Écoutez un extrait d'un téléfilm d'Alain Brunard, produit par Capadrama. C'est André Marcon qui joue le rôle de Pasteur.
Qu'est-ce qui se passe, docteur ?
Madame, je vous répète que je ne suis pas docteur. J'ai mis au point un procédé qui permet de lutter contre la rage après morsure, mais il n'a jamais été essayé sur l'homme. Je ne peux pas vous promettre que cela fonctionnera sur votre enfant.
Essayez quand même.
Madame, je vous répète que je ne peux pas répondre de la vie de votre enfant.
Mais si vous ne faites rien, c'est la rage qui le tuera.
Nous n'en savons rien. Certains mordus en réchappent. Il arrive que la maladie ne se déclare pas.
Oh, faites-le, je vous en prie, faites-le.
Je dois réfléchir. Je ne peux pas décider ça tout seul.
Ne vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains.
Oui.
Alors, messieurs.
Bon, il est plus que probable que cet enfant soit atteint d'un rage.
Et à votre avis, que dois-je faire?
Vacciner, sans perdre de temps.
Et puis nous avons retrouvé dans les archives de l'INA la voix de Joseph Meister qui lit un texte plutôt qu'il n'est interviewé. C'était en 1939.
Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Vous avez donc en quelque sorte servi de Kobe, le premier Kobe humain, à Pasteur. Et à vous voir aujourd'hui encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Vous avez sans doute conservé les meilleures relations avec Pasteur.
Parfaitement. Il s'est toujours inquiété de moi et c'est grâce à lui que je suis revenu à Paris. J'ai même travaillé un certain temps avec M. Pasteur lui-même dans son institut fondé en 1888.
Alors ce qu'il faut préciser, Maxime Schwartz, c'est que cette première vaccination du petit Joseph Meister s'est faite de manière presque clandestine avec la complicité de deux médecins, le docteur Vulpian et le docteur Granchet, qu'on a entendu dans l'extrait du téléfilm.
Oui, il faut voir que cette vaccination contre la rage n'était pas inoffensive. Ce que l'on faisait, ce que faisait Pasteur, c'était d'avoir d'abord des lapins auxquels il avait inoculé la rage, et c'est à partir de la moelle épinière de ces lapins qu'il faisait le vaccin. Alors son vaccin, en fait, c'était toute une série d'injections. Il commençait par injecter une moelle qu'il avait laissée sécher pendant une quinzaine de jours, donc en fait qui était totalement inactive, et puis à chaque fois il faisait une inoculation avec une moelle un peu moins desséchée, donc un peu plus virulente, pour terminer par une moelle entièrement virulente qui avait été prélevée la veille sur un lapin, de telle sorte que la dernière inoculation aurait donné la rage à Joseph Meister si il ne l'avait pas eu précédemment par les morsures de chien. Donc c'était quand même une opération extrêmement risquée, du genre qu'évidemment on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Et de fait, donc il a effectué cette vaccination en commençant le 6 juillet, ça a duré une dizaine de jours, et il n'en a absolument pas parlé. Il a fallu attendre le 27 octobre pour qu'il annonce publiquement à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine qu'il avait fait cette vaccination et que le petit Joseph Meister était sauvé. Il fallait quand même un certain temps, puisque la rage met quand même plusieurs semaines à se déclarer. Donc il a fait seulement le 25 octobre l'annonce, et en même temps, il a annoncé qu'il avait entamé la vaccination d'un deuxième enfant, le petit un jeune berger qui venait d'ailleurs de sa région près d'Arbois.
Voilà, et c'est là que les mordus accourront de toute la France pour se faire vacciner.
Donc à la suite de ces deux vaccinations qui ont été annoncées simultanément, mais on a su que Jupille était sauvé que quelques semaines plus tard, que les gens sont arrivés de France, d'Europe, et même il y en a qui sont venus de Russie et des États-Unis qui ont dû être dépêchés très rapidement, parce que pour que cette vaccination puisse fonctionner, il faut qu'elle soit faite rapidement après la morsure.
Alors là, on parle du moment de gloire de Pasteur, mais si on remonte le fil du temps, quand commence la première controverse entre Pasteur et Corps? Parce qu'au fond, il y a eu plusieurs sujets de controverse entre les deux hommes.
Oui, le début de la controverse a été à propos de la maladie du charbon, qui est une maladie qui attaque les animaux, qui affecte les animaux.
Les poules, les moutons?
Non, le charbon, c'est essentiellement les moutons et les vaches. Enfin, c'est le bétail ovin et bovin. Alors, à l'époque, Pasteur travaillait toujours sur les fermentations. Comme l'a rappelé tout à l'heure Annick, un des grands moments de la carrière de Pasteur, ça a été la démonstration que les fermentations qu'on pensait être des phénomènes plus ou moins spontanés étaient en fait dues à des microbes. Et chaque type de fermentation étant dû à un microbe particulier. Et c'est pendant qu'il faisait ses travaux sur les fermentations, notamment dans la fabrication du vin, que Cor a lui commencé ses travaux sur le charbon. Et donc ça a été sur ce sujet-là qu'a commencé vraiment la controverse entre les deux.
Et on va voir comment cette querelle va s'enflammer juste après Björk Virus sur RFI.
Like a virus needs a body.
Virus sur RFI. La controverse entre Pasteur et Cor débute avec l'étiologie du charbon. Quel est le rôle du contexte politique, le contexte très nationaliste dans cette controverse, dans ce combat de géants, Annick Perrot, puisqu'on est juste après la guerre de 1870?
Donc précisément, ça démarre à partir de cette guerre de 70. Au départ, d'ailleurs, tout aurait pu très bien se passer. Pasteur avait été d'ailleurs en Allemagne, où il avait été conquis par le pays, par l'accueil qu'il en avait reçu d'ailleurs. Il était très germanophile.
Très germanophile, voilà.
Très germanophile. Oui. Il envisageait même d'apprendre la langue. Ouais. Et du côté de Cor, d'ailleurs, le père de Cor était un ingénieur des mines et il avait été aussi en poste dans le sud de la France, où le frère aîné de Robert Cor est d'ailleurs né. Et puis malheureusement, il y a cette guerre de 70, le désastre de Sedan. Pasteur en est complètement affecté, comme tous les autres Français d'ailleurs. Et dès lors s'installe une espèce de haine tenace qui va effectivement durer. Donc cette rivalité commence déjà par ce nationalisme, enfin trouve en tout cas ses racines dans ce nationalisme exacerbé du côté de Pasteur notamment.
Sachant que l'un et l'autre sont assez proches du pouvoir, Pasteur est assez proche de Napoléon III, et Cor est assez proche de Bismarck.
Non, on ne peut pas dire ça. Il est vrai que Pasteur a eu des contacts avec Napoléon III, donc était pas loin du pouvoir, mais du côté de Cor, ce n'est pas le cas. C'était un petit médecin de campagne.
Alors c'est plus tard.
Beaucoup plus tard. Mais quand il a vraiment fait ses très grandes découvertes. Mais au départ, c'était le petit médecin de campagne qui est arrivé à faire des expériences. Il avait un cabinet de consultation, il avait utilisé une petite partie de son cabinet de consultation pour faire ses expériences sur le charbon. Et alors c'est là qu'il a montré que on pouvait, d'abord, il a retrouvé que dans les animaux qui avaient le charbon, on trouvait des petits bâtonnets qui étaient des bactéries qui avaient déjà été vues avant lui. Il a été capable de cultiver ces bâtonnets en fait dans l'humeur vitreuse de l'œil qu'il pouvait obtenir dans les abattoirs voisins. Et donc, il a pu montrer qu'après avoir cultivé cette bactérie, ce bâtonnet, il pouvait ensuite réinjecter un petit peu de la dernière goutte dans un animal et ça lui donnait le charbon. Donc, c'était la preuve que c'était vraiment ces petites bactéries. Enfin, il pensait que c'était la preuve que cette petite bactérie donnait charbon. Et chose très importante, il a montré que pendant la culture, apparaissaient à un certain moment des petites sphères réfringentes, des toutes petites boules, si vous voulez. Et il a compris que c'était ce qu'on appelle des spores. Bon, tout le monde connaît les spores des champignons. Eh bien, il en a trouvé aussi pour le charbon. Et c'était très important parce que ces spores sont extrêmement résistantes à beaucoup de conditions. Et ça permettait d'expliquer un phénomène qu'on connaissait bien avec le charbon. C'était le phénomène des champs maudits. C'est-à-dire que quand il y avait eu une épidémie de charbon dans un champ déterminé, eh bien, chaque année, l'épidémie recommençait, ce qui prouvait qu'il y avait du pouvoir infectieux dans le champ. Et alors, si à partir du moment où il y avait des spores très résistantes, on pouvait penser que c'était ces spores qui se maintenaient dans les champs et qui permettaient de maintenir le pouvoir infectieux dans les champs. Donc ça a été ça essentiellement la découverte de Cor qu'il a publiée fin 76. Et tout de suite, début 77, Pasteur, qui n'était pas tout à fait convaincu par les résultats de Cor, et surtout qui avait du mal à admettre qu'un Allemand arrive dans son territoire, c'est là que Pasteur s'est mis au travail.
Alors, un autre point de désaccord essentiel entre les deux hommes, c'est celui de l'atténuation des virus pour la vaccination. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait du film d'Alain Brunard, Pasteur joué par André Marcon et dans son laboratoire avec le docteur Roux, joué par Bruno Todeschini, et une poule est là, bien vivante.
Je comprends pas, elle est vivante.
Votre don d'observation m'étonnera toujours.
Mais je l'ai inoculée. Elle devrait être morte.
Vous avez utilisé la bonne souche ?
Je crois. J'ai dû l'oublier quand on est parti en congé. Je vais l'acheter.
Non, attendez. Injectez à votre poule une souche très virulente.
Pourquoi ?
Pour vérifier que vous n'êtes pas tombé sur la poule la plus résistante du monde.
Le produit n'était pas altéré cette fois. J'en suis sûr. Elle devrait être morte, je comprends pas.
Je sais. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, mon cher Roux.
Pardon.
Jenner, ça vous rappelle quelque chose ? Jenner avait compris qu'on pouvait se protéger de la variole des hommes par une maladie qui lui ressemble et qui est moins puissante. La variole des vaches. Variolae vaccinae. La vaccine était née. Elle a sauvé des millions de vies humaines. C'est exactement la même chose ici. Votre flacon a attendu si longtemps que les micro-organismes qu'il contient se sont épuisés, atténués. Trop faibles pour tuer la poule, mais assez forts pour l'immuniser.
Pourquoi Cor refusait-il cette notion d'atténuation si importante, Maxime Schwartz ?
C'est un peu l'histoire de Darwin et de Lamarck, d'une certaine façon. Bon, Pasteur est assez rapidement compris que, à cause de ses travaux, d'ailleurs, sur l'atténuation, qu'on pouvait faire varier les propriétés d'un microbe selon les conditions de culture. En fait, on le sait aujourd'hui que c'est dû à la sélection de mutants, mais lui ne le savait pas à l'époque. Tandis que Cor, lui, était très attaché à la fixité des bactéries. Il avait développé des tas de techniques qui lui permettaient d'identifier des bactéries et il ne pensait pas qu'elles pouvaient varier. Donc, il ne croyait pas du tout à la théorie de Pasteur selon laquelle on pouvait atténuer un microbe pour l'utiliser ensuite pour vacciner contre le microbe non atténué, contre le microbe virulent.
Alors on va voir qu'un tournant va se produire en 1882, quand Cor va découvrir le fameux bacille qui porte son nom. On en parle juste après les informations sur RFI. Maxime Schwartz et Annick Perroux, vous restez avec nous.
Autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
autour de la question Pasteur et corps, qui a inventé la microbiologie, avec Maxime Schwartz, ancien directeur de l'Institut Pasteur, et Annick Perrault, conservateur honoraire au musée Pasteur, auteur du livre Pasteur et corps, un duel de géants dans un monde de microbes, paru aux éditions Odile Jacob. 1882 est une grande année pour corps, puisqu'en mars, il découvre son fameux bacille. Écoutez le professeur Thomas Schnalke, directeur du musée d'histoire de la médecine de Berlin, et le professeur Reinhard Burger, directeur de l'Institut Robert Koch à Berlin.
Il a dit, je dois extraire la bactérie vivante dans les tissus que j'ai prélevés sur un animal malade, la cultiver, réussir à la faire proliférer dans un environnement adapté, puis infecter un animal en bonne santé et voir si cet animal développe la même maladie. Et si en prélevant à nouveau un tissu sur cet animal que j'ai infecté, je peux prouver que la bactérie s'y trouve. Alors la boucle est bouclée et je peux prouver l'existence de la bactérie.
Tout le pays espérait qu'une fois la bactérie de la tuberculose découverte, un médicament soit trouvé. Il a été soumis à une pression très forte et conduit sans doute à publier trop tôt l'idée que la tuberculine, une substance obtenue à partir de la bactérie pas très purifiée, pourrait être thérapeutique. Et quand cette rumeur est sortie dans le grand public, beaucoup de patients atteints de tuberculose sont venus à Berlin pour être guéris. Mais le traitement n'était pas efficace.
Que s'est-il passé au moment de la découverte par Koch de son fameux bacille, Maxime Schwartz ?
Oui, il y a eu beaucoup d'événements qui viennent d'être rappelés. Premièrement, il faut rappeler qu'avant de découvrir le bacille de la tuberculose, Koch a mis au point des nouvelles techniques de bactériologie, et ça a peut-être été sa plus grande contribution au début de la microbiologie, notamment ce qu'on appelle la culture sur milieu solide, qui permet à partir d'une bactérie isolée d'obtenir une colonie, qui est donc une culture pure obtenue à partir d'une seule bactérie. Et ça, ça a été un des éléments qui lui a permis d'isoler le bacille de la tuberculose. Et un autre élément, c'est qu'il a beaucoup amélioré la microscopie nécessaire pour voir des toutes petites bactéries. Or, la bacille de la tuberculose est une toute petite bactérie. Donc grâce à ces nouvelles techniques qu'il a mises au point et que Pasteur ne possédait pas, il a pu effectivement identifier une bactérie qui était présente dans les tissus d'animaux ou de personnes tuberculeuses et montrer que cette bactérie donnait à son tour la maladie. Et ça, ça a été une très très grande découverte. Alors, il est fait allusion à un événement qui a été beaucoup postérieur, parce que...
Voilà, bien plus tardif, c'est-à-dire qu'il isole la bactérie, mais en revanche, il ne trouve pas de traitement.
Il ne trouve pas de traitement tout de suite, et en fait, ça mettra de très nombreuses années. L'autre événement auquel il est fait allusion, la découverte du bacille, c'est en 1882. Le problème de la tuberculine, c'est en 1890, donc il s'est quand même passé 8 ans, et beaucoup de choses se sont passées entre-temps, dont on parlera peut-être, mais alors effectivement, il a cru qu'il avait trouvé un remède contre la tuberculose, et qui était cet extrait de bactéries. Il n'a pas dit d'ailleurs au début ce que c'était. Il a annoncé ça dans un très grand congrès, ça n'était pas une rumeur. Donc du coup, le monde entier s'est dit, ça y est, formidable, on va guérir la tuberculose, et des gens très célèbres ont amené des gens de leur famille, etc. Ça a valu d'ailleurs à Koch qu'on construise un institut pour lui, qui était l'équivalent de l'Institut Pasteur, mais malheureusement, cette tuberculine n'était pas un médicament contre la tuberculose. Ça a servi pour le diagnostic de la tuberculose, voilà, mais pas pour la guérir.
Alors, cette période-là, 1880-1882, c'est la période que vous appelez le clash entre les deux hommes, entre Pasteur et Koch. Que se passe-t-il, Annick Perrault ?
Alors, ce qui va se passer, c'est d'abord au congrès de Londres, où toute la fine fleur
de la science
est présente, en août 81. Et Pasteur est vraiment l'invité d'honneur. D'ailleurs, quand il rentre dans la grande salle de Saint James, il y a un tonnerre d'applaudissements qui l'accueille. Il pense peut-être avec une fausse naïveté que les applaudissements sont dédiés au prince de Galles, et son gendre qui est à côté de lui dit non, cher beau-père, ces applaudissements sont pour vous. Et donc c'est l'icône que l'on acclame. Et Koch est aussi dans la salle. Bon, Cor n'est pas encore, enfin, il a quand même découvert, il a fait toutes ses grandes recherches sur le charbon, mais il n'a pas encore atteint, évidemment, le sommet de la reconnaissance. Or, Pasteur prend la parole et il ne cite que ses propres travaux. Il commence à citer très légèrement ceux de Robert Cor. Et puis, Lister, qui est le grand chirurgien écossais, qui est le président de ce congrès, essaie de faire se rencontrer ces deux personnages. Il arrive à le faire. Et c'est à ce moment-là que Robert Cor, donc, qui présente toutes les techniques dont Maxime a parlé, quand même éblouisse un peu, enfin éblouisse c'est peut-être un mot un peu fort, mais Pasteur reconnaît que c'est vraiment très bien. Et il lui serre la main, il serre la main de Robert Cor en lui disant « Monsieur, c'est un grand... »
C'est la seule fois que ça se produit.
C'est un grand progrès.
C'est un grand progrès et c'est effectivement la seule fois que ça se produit. D'ailleurs, on pense que Pasteur a peut-être regretté un peu cette poignée de main parce que immédiatement après, Robert Cor va écrire un recueil sur les travaux de Pasteur qui ressemble plutôt à un pamphlet. Et puis, ce qui va donner l'occasion d'un nouveau clash, précisément, lors d'un autre congrès.
Congrès de Genève.
Au congrès de Genève, un an après, où là, Pasteur encore est applaudi et va vraiment dénoncer tous les travaux, en tout cas, va dénoncer les travaux de Pasteur, mais aussi surtout les attaques de Robert Cor, qu'il a faite vis-à-vis de lui dans ce fameux recueil. Et il invite Robert Cor à prendre la parole pour se justifier.
Alors, les attaques entre les deux hommes sont vraiment très virulentes. Elles se font par voie de presse. Alors, un autre sujet qui va les séparer, c'est l'affaire du choléra, puisque une épidémie de choléra éclate en Égypte en 1883. Ensuite, en 1885, Pasteur fait sa fameuse découverte sur du vaccin contre la rage. Et là, au fond, il dit puisse la rage nous rendre notre rang, ce qui n'est quand même pas rien, Maxime Schwartz, en termes de. Alors, certes, c'est une grande découverte, mais c'est quand même du chauvinisme.
Ah ben ça, chauvinisme, c'est certain. Depuis la guerre de 70, c'est clair que Pasteur ne peut pas souffrir les Allemands et ça durera jusqu'à sa mort. La dernière lettre pratiquement qu'on connaisse de Pasteur, c'est un refus d'une médaille venant de l'Allemagne. Bon, dans la dispute qu'il y a eu sur le charbon, ça a quand même été très loin. Cor a accusé Pasteur de ne pas savoir faire une culture pure de bactéries, alors que Pasteur en avait déjà fait, alors que Cor n'avait que 15 ans. Il a accusé Pasteur de dire que, en lui disant que ces bactéries atténuées, c'était des contaminants. Quant à ces poules qu'il prétendait avoir protégées, on lui dit que c'était en fait certainement une race de poules qui était spontanément résistante.
Bien, ouais.
Donc vraiment, c'était des attaques extrêmement violentes. Bon, alors, il y a eu plusieurs échanges autour du charbon. Ça a vraiment été le cœur de leur dispute, le charbon. Après, le choléra, ben, c'est arrivé donc peu après, c'était en 83. Le choléra, une épidémie de choléra arrive en Égypte et Pasteur convainc les autorités françaises qu'il faut envoyer une mission pour essayer de trouver quel est le microbe, parce qu'il est convaincu qu'il doit y avoir un microbe responsable du choléra. Donc il y a une mission française qui arrive et puis les Allemands en font autant. Bon, Pasteur n'y va pas lui-même parce qu'il est déjà assez âgé, il envoie surtout Roux qui était son principal adjoint et puis les Allemands en font autant, ils envoient Robert Cor. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, d'abord, l'épidémie est en train de se terminer. Et puis, l'un des membres de la mission française, Louis Thuillier, meurt du choléra sur place. Et donc, les Allemands ont été absolument très corrects. Ils sont venus pour les obsèques. Cor a dit que Louis Thuillier était mort pour la science. Bon, les choses se sont bien passées. Mais après, donc, la mission française est rentrée. Évidemment, pour la mission allemande, eh bien, comme il n'y avait plus d'épidémie, Cor a obtenu de se faire envoyer en Inde, où il y avait toujours le choléra, et là, il a isolé le bacille du choléra. Il n'a pas été capable de donner le choléra pas avec le bacille qu'il avait. Pour la bonne raison, on le sait maintenant, c'est que les animaux qu'il utilisait n'étaient pas sensibles au choléra.
Ça ne se transmet pas aux animaux.
Oui. Mais enfin, il retrouvait la même bactérie chez tous les malades du choléra. Donc, il a compris que c'était transmis par l'eau, etc. Donc, on peut considérer qu'il a isolé la bactérie du choléra. Et il est revenu comme un héros en Allemagne. Cela dit, Pasteur a mis très longtemps à accepter cette démonstration parce qu'il n'y avait pas pu avoir cette inoculation à des animaux.
Alors, nous allons voir comment les Français et les Allemands envoient des missions à l'étranger pour traquer les épidémies. Écoutez Patrick Deville, l'auteur de Peste et choléra, paru en 2012. Il parle de la figure d'Alexandre Yersin.
C'est Yersin que j'ai choisi comme fil directeur. Tout d'abord parce que Yersin est celui qui vit le plus longtemps. Il vit du Second Empire à la Seconde Guerre mondiale. Il meurt à Nha Trang, dans l'actuel Vietnam, sous occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il a une vie extrêmement mouvementée parce qu'il naît en Suisse, il étudie à Berlin, il se rend ensuite à l'Institut Cor, il travaille avec Pasteur. Il découvre la toxine diphtérique et puis très vite il en a marre. Il abandonne tout ça et il se fait marin. Il part en Asie, il est affecté à la ligne Saïgon-Manille. Ensuite il devient explorateur, il achète des éléphants, des chevaux, des guides. À côté de cela, ce Yersin, alors que finalement il s'occupe d'autre chose, il découvre et il identifie et il décrit le bacille de la peste à Hong Kong. En 1994, ensuite il revient faire des travaux à l'Institut Pasteur, et puis en Chine, à Canton, il est le premier médecin à guérir un pestiféré, donc il est le vainqueur de la peste.
Alors, à travers les disciples de Pasteur et Cor, au fond, la bataille continue outre-mer, Annick Perrot.
Oui, la rivalité continue un peu, mais enfin un peu atténuée. Enfin, toutefois, vous le rappelez, Yersin, il est envoyé. Il est d'abord, il poursuit ses expéditions d'abord en Indochine, et il est appelé parce qu'il y a cette épidémie de peste qui s'est déclarée dans le Yunnan en Chine. Et là, il rencontre, il s'installe à Hong Kong. Il va rencontrer Kitasato, qui est lui l'élève de Robert Cor. Voilà. Et c'est là que les deux élèves des deux écoles vont s'affronter. Or, il se trouve que Kitasato est déjà installé dans un hôpital. On lui donne toutes les satisfactions, tous les moyens dont on peut disposer pour étudier cette épidémie. Alors que le pauvre Yersin arrive avec un microscope et puis il n'est vraiment pas accueilli d'une façon très sympathique, c'est moins qu'on puisse dire, par cette équipe allemande.
Les japonaises, hein, ce sont des japonais.
Pardon, les japonaises,
mais Kitasato avait été formé en Allemagne.
Il était, voilà, oui, excusez-moi. C'était...
Et alors, ce qui est très amusant concernant Alexandre Yersin, c'est que précédemment, il était allé soi-disant étudier en Allemagne chez Cor, et en réalité, un petit peu pour espionner pour le compte de Pasteur.
Ça, c'était beaucoup plus tôt. C'était en 87. Oui. C'était avant l'ouverture de l'Institut Pasteur. Oui. Comme Roux avait l'intention de commencer un enseignement à l'Institut Pasteur, eh bien, Roux et Pasteur ont envoyé Yersin suivre le cours de Robert Cor.
Il a tracé des plans très précis.
Il a tracé des plans qui ont d'ailleurs servi. Voilà. Et, détail amusant, j'ai moi-même fait des cours à l'Institut Pasteur dans une salle qui était la copie conforme de celle que Cor avait utilisée et dont Yersin avait rapporté les plans.
Et un autre personnage important parmi les lieutenants de Pasteur, c'est Metchnikov, qui a un peu fait finalement le go-between entre les deux écoles. Enfin, on sent qu'il était assez diplomate.
On ne peut pas quitter Yersin comme ça, parce qu'il faut bien voir qu'il y a quand même eu cette lutte. Oui. Enfin, ce n'est pas une lutte, chacun travaillait de son côté. Mais en fait, en une semaine, Yersin, sans aucun moyen, après s'être fait construire une hutte de paille pour travailler, il a isolé le bacille de la peste. Alors que Kitasato a isolé une autre bactérie, bactéries. Il a prétendu pendant très longtemps que c'était le bacille de la peste, mais c'était le pneumocoque. Donc, pour un certain nombre de raisons, je ne m'étendrai pas maintenant. Mais donc, c'est vraiment Yersin qui a identifié le bacille de la peste et qu'on appelle maintenant Yersinia pestis.
En allant voir dans les bubons.
C'est ça. Yersin est allé voir dans les bubons, tandis que Kisatato est allé voir dans le sang où il y avait effectivement très peu de bacilles de la peste.
Et donc je parlais de Mechnikov qui a aussi eu un rôle très important parmi les pasteuriens, donc futur prix Nobel, enfin prix Nobel de médecine en 1908. Quel rôle a-t-il joué pour faire le lien entre les deux écoles, la française et l'allemande?
Alors, Annick Perrault, brièvement pour rappeler qui était Mechnikov, c'est un Russe. Il a beaucoup voyagé dans toute l'Europe. Il a découvert surtout le phénomène de la phagocytose. Et il veut fuir la Russie et il frappe à la porte de Robert Koch, précisément. Et Robert Koch ne l'accueille pas d'une façon très, très sympathique aussi. Donc il est un peu, Mechnikov est déçu et il va à Paris. Et là, il va rencontrer Pasteur. Et c'est à l'époque où l'Institut Pasteur sort de terre et Pasteur va l'accueillir dans son équipe. Il va lui offrir d'ailleurs un service. Alors Mechnikov, malgré quand même le peu d'égards que Koch lui a manifesté, il va être un peu le lien qui va essayer de rabibocher les deux écoles.
Nous parlions à l'instant de Hong Kong avec Yersin. Nous y retournons avec un extrait de la bande originale de In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Rebecca Pan, Lan Wan Nu sur RFI. L'Institut Pasteur est né en 1888 et les instituts Pasteur ont beaucoup rayonné à l'étranger. C'est ce qu'expliquait Noël Bernard en 1947, sous-directeur de l'Institut Pasteur.
C'est du vivant même de Pasteur qu'a été créé le premier des instituts au Canada des mers. C'est Pasteur qui a envoyé Albert Calmette en 1890 créer le premier institut Pasteur colonial à Saigon. 4 ans plus tard, c'est M. Yersin, le docteur Yersin, qui créa l'institut Pasteur de Niatran. Depuis ce moment, l'institut Pasteur a essaimé dans toutes les régions de la France d'outre-mer où nous avions planté notre pavillon. C'est ainsi que l'Afrique du Nord, l'Afrique orientale, l'Afrique occidentale, l'Afrique équatoriale, les Antilles, Madagascar ont été le lieu de création d'établissements très prospères qui ont travaillé à la fois au développement des races indigènes et aux productions économiques du pays. Ils ont fait d'abord l'étude de toutes les maladies endémiques du pays, ils en ont étudié les grands fléaux et en outre, ils ont pratiqué sur une très large échelle la médecine préventive qui est la formule médicale la seule vraiment applicable aux colonies. Certes, la médecine curative, la médecine individuelle conserve tous ses droits, mais dans d'immenses territoires où les populations sont extrêmement clairsemées, ce qu'il faut, ce n'est pas soigner des malades, c'est prévenir les maladies. C'est le rôle que s'est imposé l'Institut Pasteur, et il a obtenu, dans cet ordre d'idées, des résultats extrêmement remarquables.
Voilà, à l'époque, on parlait des races indigènes. Annick Perrot, est-ce que ce modèle des Instituts Pasteur est très spécifique à la France par rapport à l'Institut Cor en Allemagne?
Ah oui, de toute façon, c'est un modèle unique au monde. Ce réseau qui a donc vu le jour avec le premier institut à Saigon, par Calmette, qui a développé et qui est présent sur tous les continents.
Maxime Schwartz.
Mais l'image que donne Noël Bernard est vraiment une image du passé. C'est
mais
vrai.
Oui,
que,
bien sûr. Non, mais...
C'est vrai que ce réseau a commencé dans ce qu'étaient les colonies à l'époque, dans l'Empire français. Mais maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la quasi-totalité des régions où c'était implanté, des pays où c'était implanté. Les pasteurs sont devenus indépendants. Et puis, il y en a d'autres, beaucoup d'autres qui ont été créés dans des pays qui n'ont jamais fait partie de l'Empire français. Par exemple, il y a eu, en Grèce, il y en a maintenant à Montevideo, il y en a... en Corée du Sud, un tas de pays différents. Donc ce n'est plus du tout une entreprise coloniale. Et la base, disons, du réseau des instituts Pasteur tel qu'il est aujourd'hui, c'est d'avoir d'une part des institutions qui rendent service à la santé publique là où ils sont implantés, c'est déjà ce que disait Noël Bernard, mais en même temps de permettre d'avoir une recherche s'appuie d'une part sur des travaux faits dans les pays où il y a des maladies, comme par exemple le paludisme, collaboration avec l'Institut Pasteur à Paris ou d'autres grandes institutions des pays développés pour pouvoir faire avancer les travaux sur ces maladies. Donc il y a cette idée de développer la recherche avec cette collaboration entre ces deux types d'institutions.
Autour de la question, Sophie Joubert.
Si on revient à l'époque de Pasteur et Cor, donc quand ces lieutenants ont commencé à partir chasser les épidémies à l'étranger, Pasteur était trop vieux et trop malade pour voyager. En revanche, Cor lui-même est parti chasser les épidémies sur le terrain.
Oui, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que Pasteur s'est très peu déplacé finalement, mais a envoyé ses élèves ou ses lieutenants, comme nous les appelons, un peu partout dans le monde. Donc il y a maintenant des instituts Pasteur, il y a 32 instituts dans le réseau international Institut Pasteur aujourd'hui, alors que Cor, lui, s'est énormément déplacé, effectivement, alors que Pasteur avait disparu. C'est à la fin de la vie de Cor. Il a fait des travaux, d'ailleurs, très intéressants, mais il n'y a pas eu de création d'institut Cor, si vous voulez, à l'étranger.
Mais au fond, Maxime Schwartz, Annick Perrot, si on fait le bilan de leur découverte et de leur rivalité, finalement c'est un peu stérile de chercher à savoir qui a fait quoi, qui a apporté quoi. Parce qu'au fond, c'est un apport commun à la science et à la médecine.
Mais c'est un apport commun, ça n'est pas stérile, on peut très bien voir. C'est quand même au départ Pasteur qui a eu joué le rôle fondamental en montrant d'abord le rôle des microbes dans les fermentations, en montrant chaque fermentation à son microbe, et ensuite en montrant que dans les maladies infectieuses c'était pareil, que les maladies infectieuses avaient... Alors là, il y a quand même l'intervention de Koch, et dans le cas du charbon, il y a eu en fait des contributions des deux. Mais ensuite, Koch a joué un rôle considérable avec le développement de techniques nouvelles qui sont encore valables aujourd'hui, et puis en découvrant quand même les bacilles, bon, je dis le charbon en grande partie, mais surtout la tuberculose et le choléra, qui étaient quand même des maladies terribles. À l'époque, la tuberculose, ça tuait entre le quart et le cinquième des gens en Europe. Donc, trouver la bactérie responsable de cette maladie, c'était une découverte considérable. Donc, les deux y ont contribué avec des esprits différents, des approches différentes, mais on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui ait vraiment été plus important
que
l'autre.
Voilà, c'est ça. Vous êtes livré un petit jeu amusant. Combien de rues Pasteur en France, combien de rues Koch et inversement en Allemagne?
Oui, des rues Pasteur en France, on peut dire qu'il y en a pratiquement dans toutes les agglomérations. Si on regarde sur Internet, on trouve, je crois, 5 rues Robert Koch en France. Et en Allemagne, je ne sais pas combien il y a de rues Robert Koch, mais il doit y en avoir beaucoup. Et j'ai trouvé 9 rues Pasteur en Allemagne. Donc ça montre vraiment que... Il y a une méconnaissance des travaux du savant de l'autre pays dans chaque pays. C'est très étonnant.
Et pour la réconciliation franco-allemande, votre livre est en cours de traduction en Allemagne?
Exact. Il va sortir, je pense, dans l'année qui vient, édité en allemand.
Merci beaucoup Annick Perrault et Maxime Schwartz. Votre livre Pasteur et Koch, un duel de géants dans un monde de microbes, est publié chez Odile Jacob. Merci à Cécile Bonici. La semaine prochaine, nous parlerons de l'astronomie au féminin.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.